avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Et avec surtout Michel Onfray. Bonjour Michel. Sagesse, publié chez Albin Michel et Flammarion, jeudi, une centaine de livres. Alors, vous êtes quand même un phénomène absolument incroyable. On va parler évidemment de l'actualité de votre livre et de cette thèse qui sous-tend tout votre travail, à savoir qu'il peut exister une contre-histoire de la philosophie, voire même une contre-histoire de la pensée, et que ce n'est pas simplement ce qu'on apprend à l'école normale supérieure qui peut servir de sagesse à l'humanité dans son ensemble. 2018, zéro de conduite, carnet de campagne, c'est la même année, hein. Après, vous avez écrit un livre sur Démocrite, après un livre sur la stricte observance, après un livre sur la pensée qui prend feu, qui est consacré à Antonin Artaud, après un livre sur l'autre pensée de 68, après un livre dont on va parler évidemment en entrée, Solstice d'hiver, qui est consacré à Alain, Hitler et les Juifs pendant l'occupation, enfin le deuil de la mélancolie et puis sagesse. Mais vous êtes complètement cintré.
Oui. Je n'ai rien à dire à ça, oui, c'est vrai, effectivement. Oui.
Mais cette graphomanie, est-ce qu'on peut l'assimiler, justement, puisqu'on parle beaucoup parlé de Lagerfeld ce matin, à cette obsession du travail qui le caractérisait aussi?
Oui, je crois. Oui.
Et ça vient d'où, ça?
Il y a une addiction, hein, je vois bien, quand il y a des gens qui ont une addiction à, je sais pas, à l'alcool, à la drogue, je ne sais quoi, ou au jeu. Mm-hmm. Je comprends bien, moi, j'ai une addiction à la lecture et à l'écriture. D'où ça vient? Oh, c'est simple et compliqué. C'est-à-dire que j'ai été un peu, enfin, frappé jusqu'à l'âge de 10 ans, 14 ans, orphelinat, et dans un orphelinat où il y avait des prêtres salésiens, mm-hmm. j'ai découvert la puissance des livres. C'est-à-dire que c'était Le vieil homme et la mer d'Hemingway. On ouvre ce livre, et d'un seul coup, on a les embruns qui vous sautent au visage, on ferme ce livre, et d'un seul coup, quand on est dans le dortoir, on a 120 sous-vêtements, 120 petits garçons qui sentent mauvais, on ouvre le livre et on repart en pleine mer, etc. Et quand on a découvert la magie du livre, ça m'a fait la même chose avec Pierre Loti, Pêcheur d'Islande, que je lisais à cette époque-là, eh bien, on sait que le livre est un salut. Donc j'en ai beaucoup lu, et puis je me suis mis à en écrire, il se fait que j'ai des lecteurs, j'ai des éditeurs, donc je continue à en écrire. Et comme je ne fais que ça dans la vie, il n'y a pas de mondanité, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de repas inutile ou ce genre de choses.
Enfin, les repas, il y en a.
Oui, mais j'ai dit repas inutile.
Inutile. Non, si je vous pose ces questions d'entrée, parce que j'ai toujours eu le sentiment, comme beaucoup des lecteurs qui vous suivent depuis des années, qu'il y avait un peu cette phrase de Rilke, l'enfance est un destin, qui rôdait un peu comme chez Camus dans votre travail, même dans cette espèce de positionnement philosophique, qui est un rapport que définissait lui aussi à Lagerfeld à l'égard de sa mère. C'est-à-dire qu'il parle de sa maman qui a joué un rôle énorme, et visiblement, non seulement les prêtres, par rejet, ont joué un rôle énorme dans votre vie et dans votre destinée, mais votre mère et sa situation sociale a joué un rôle énorme dans la colère qui vous habite depuis le début, et qui parcourt ces 100 livres.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Cette colère-là, elle s'enracine dans le sens de l'injustice que j'ai eu très vite et très tôt. Vous savez, il y a ce très beau film L'enfant sauvage, à partir du travail d'Itard, le docteur Itard, et c'était un beau film de Truffaut, et Truffaut raconte cette histoire d'un enfant qu'on récupère en plein milieu de la nature, et il veut savoir si le sentiment de l'injustice est naturel ou culturel. Et il enferme cet enfant qui n'a rien fait, il le punit alors qu'il n'a rien fait, et l'enfant se met en colère. Il dit, donc il y a vraiment un sentiment naturel de l'injustice.
Et qui moi, est chez vous, quoi, oui. La situation sociale de vos parents?
Oui, la façon qu'on avait de traiter mes parents.
C'est-à-dire, ils faisaient quoi?
Le mépris social. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage.
Comme Camus.
Des gilets jaunes, quoi. Oui, il y a des trucs sidérants entre Camus et moi, si je puis me permettre. Mais enfin, c'est vrai que le père ouvrier agricole, la mère femme de ménage, voilà, le fait d'être en province, lui en Algérie, moi en Normandie, le fait de ne pas être normalien, pas agrégé, de ne pas être de ce monde, le fait de ne pas souscrire aux idéologies, par exemple le marxisme à son époque, moi d'autres idéologies, dont le marxisme d'ailleurs. Enfin bon, ceci dit, il y avait chez Camus une fidélité à la justice, et pas forcément à la liberté ou à l'égalité, mais à la justice. Ceci dit, plus à la liberté qu'à l'égalité. Et j'ai l'impression, effectivement, d'avoir connu très vite et très tôt l'injustice à laquelle mes parents ont été soumis, et je me suis dit, non, je n'oublierai pas ça.
D'où la contre-histoire de la philosophie, d'où l'université populaire, qui n'est évidemment pas celle de Normale Sup, d'où la distance prise par rapport à la philosophie allemande, d'où la distance, on va en parler, pris par rapport à la philosophie grecque, c'est-à-dire ceux qu'on connaît tous, Socrate, Platon, Aristote, que vous ne critiquez pas, mais auxquels vous opposez d'autres personnages, Cicéron, Sénèque et ceux qui ont marqué l'histoire de Rome. Question simple, ce matin, vous êtes un intellectuel, Finkielkraut est un intellectuel, est-ce que vous avez l'impression que l'agression abjecte dont il a été l'objet aurait finalement eu, d'une certaine manière, un bénéfice, à savoir que le vrai visage d'une partie des Gilets jaunes serait apparu à l'opinion qui maintenant s'en désolidarise? C'est une question fondamentale.
Oui, Et je pense que depuis le début, de toute façon, ceux qui ont intérêt à ce que les gilets jaunes n'existent pas font savoir qu'ils ont tous les maux du monde. Donc antisémitisme, homophobie, fascisme, nazisme, etc. Ça a été dit très vite, très tôt.
Oui, par Castaner, peste brune.
Par Castaner, par Macron, qui nous a fait savoir qu'on était dans les années 30, etc. Dès le départ, il a fallu criminaliser. De toute façon, dès qu'on n'est pas d'accord avec Macron, on est criminalisé et on fait le jeu de Marine Le Pen, on est un fasciste, on est un nazi, on a bien compris la logique. Il se fait que...
Sauf qu'il y a quand même une réalité, mais pardonnez-moi de vous interrompre, le type qui dit
oui
chez nous.
Je n'ai pas dit le contraire. Je dis juste, si vous me permettez de répondre, qu'il faut inscrire les choses dans le temps et du 17 novembre à aujourd'hui, les messages n'ont pas été les mêmes, les populations et les sociologies n'ont pas été les mêmes. Je vous rappelle que dans les 10 premiers jours, la France insoumise dit pique-pendre des gilets jaunes. Les socialistes aussi, les communistes également. Tout ça a disparu du net, ils ont des bons community managers. Tout ça a disparu. Moi, je me souviens de propos de Coquerel, on ne les voit plus du tout, mais ceci dit, ça sentait le fuel aussi, ça sentait la clope, c'était quand même un peu fasciste. Et c'était
et après, ils ont tous essayé de récupérer
après,
le mouvement.
Ils ont tous récupéré. Première chose.
Macron.
Voilà. Deuxième chose, il y a des islamistes qui sont en train de récupérer le mouvement aussi. Et ce, depuis l'Arc de Triomphe. Je vous rappelle que quiconque a, comme moi, vu les informations de la télévision, c'est-à-dire tout le monde, n'importe qui pouvait faire cette conclusion, juste en regardant les choses, il y avait effectivement un certain nombre de gens qui portaient d'ailleurs pas le gilet jaune, quand on a vu ces images du ravage de l'Arc de Triomphe. On les a laissés faire, et ce sont des gens qui venaient des banlieues. On a laissé faire, on avait besoin, le pouvoir avait besoin d'assimiler les gilets jaunes à l'antisémitisme et à la violence.
Mais est-ce que vous croyez sérieusement ce matin, je suis obligé de vous poser cette question franchement, à un tel cynisme?
Mais oui, bien
parce
sûr.
Que c'est une catégorie de la philosophie, le cynisme.
Non, c'est une catégorie de la politique. C'est une catégorie, oui, de la philosophie, bien sûr, mais on ne peut pas, on ne fait pas de politique à ce niveau-là sans être un immense cynique. Enfin, vous savez bien. C'est-à-dire que on ne devient...
Non, je ne le sais pas, puisque je vous pose
si.
La question.
Non, mais enfin, vous avez côtoyé le monde politique, vous avez vu comment tout ce monde-là fonctionnait. On ne devient pas un jour président de la République, qui plus est quand on n'a pas encore 40 ans, sans être un crocodile de haut vol, si je puis me permettre l'expression. Donc, un requin. Et donc, effectivement, qu'on instrumentalise. Vous ne croyez pas que l'antisémitisme hier a été instrumentalisé? Vous ne croyez pas que la Shoah a été instrumentalisée quand, entre les deux tours, Macron s'en va à Oradour-sur-Glane et au mémorial de la Shoah en disant « Attention, hein, dimanche prochain, Marine Le Pen, c'est quand même Oradour et c'est quand même la Shoah. » Alors si c'est ça, Oradour et la Shoah, c'est pas grand-chose.
Mais instrumentalisé, Michel Onfray, si vous étiez dans votre télévision quand vous avez vu ce Benjamin justement s'adresser à Alain Finkielkraut, moi je dois vous dire que, n'étant pas cynique, n'étant pas dirigeant politique, quand j'ai vu ce personnage dire « On est chez nous » et s'adresser avec une telle véhémence, quoi qu'on puisse penser, et j'en pense plutôt du bien, de certains livres de Finkielkraut comme La défaite de la pensée, c'est quand même horrifiant.
Ah,
il y a
tout
le cynisme. D'écrire la mécanique sans s'éloigner des sentiments, en sortant les sentiments, c'est...
J'ai publié un texte de 20 pages le dimanche, le lendemain, à 16h. C'est sur ma web TV, c'est facile de voir. Hein. Je ne tolère pas ce qui a eu lieu. Évidemment, j'ai été... J'ai eu un haut le cœur physique quand j'ai vu ces images. La silhouette d'Alain Finkielkraut accablé sous ses insultes, etc. Donc évidemment que je défends Finkielkraut, et je l'ai défendu quand il s'est fait cracher au visage aussi à l'époque à Nuit Debout, je vous rappelle, c'était déjà ça.
Exact.
Donc je l'ai fait savoir, j'ai même écrit un texte dans Le Point à l'époque pour soutenir Alain Finkielkraut, que je soutiens et que je défends. Le problème, il n'est pas là, il est qu'un certain nombre de politiciens jouent avec le feu. Pour être élu président de la République ou pour être en tête aux prochaines élections européennes, on utilise la Shoah. Il y a un tas de gens qui marchent dans le truc, qui estiment effectivement... Moi, j'ai du respect pour les victimes de la Shoah et je ne m'en servirai pas à des fins de politique politicienne. Je ne peux pas imaginer qu'entre deux tours, on puisse aller...
Et vous jouez avec la Shoah, vous rendez compte de la consonance.
Mais attendez, je sais bien comment les choses se passent. Moi qui dis les choses, je vais être bien sûr beaucoup plus coupable que lui qui fait les choses. J'ai l'habitude. Quand je dénonce ce doigt d'honneur, c'est moi qui fais le doigt d'honneur. Donc j'ai bien compris que les choses fonctionnaient comme ça. Mais c'est pas ça qui va me faire taire. Je dis juste que, eu égard à la mémoire des victimes de la Shoah, on ne s'en sert pas à des fins de politique politicienne. Ça s'appelle du négationnisme. Ça s'appelle du négationnisme. Imaginez que on peut prendre la Shoah en otage juste pour des petites raisons de politique politicienne. Être élu, être réélu ou être sortir en tête aux prochaines élections européennes, c'est honteux.
Mais il fallait bien faire quelque chose. Le type a été emprisonné ce matin, donc l'État doit dire quelque chose.
Ah, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais alors, ce moment-là, non, c'est pas durcir la législation.
Non,
ça fait 20 ans qu'on laisse proliférer un antisémitisme pourvu qu'il soit musulman. Si vous voulez être misogyne, si vous voulez être homophobe, si vous voulez être phallocrate, si vous voulez être antisémite, il n'y a aucun problème si aujourd'hui vous êtes musulman. Mais dit m'éclate, etc., là vous avez le droit, il n'y a aucun problème.
Vous voulez dire que tous ceux qui ont traité ce sujet disons, de l'islamo-gauchisme.
L'islamo-gauchisme qui est en jeu.
Voilà. Et finalement, ils auraient pu taper très fort,
ils l'ont pas fait. Bien sûr, ils l'ont surtout pas fait, ils ont même fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont entretenu. Lisez, par exemple, un président ne devrait pas dire ça. Vous voyez bien que dans le privé, Hollande sait bien ce qui se passe. Et dans le public, quand il est président de la République, il ne fait rien, il fait exactement le contraire. Et on le voit hier, par Adam. En disant, il faut arrêter, l'antisémitisme est une catastrophe. Que n'a-t-il fait le nécessaire pendant 5 années où il était au pouvoir, ou pendant 20 ans pendant qu'il était responsable du Parti Socialiste?
Parce que vous vous souvenez très bien, parce que vous êtes intellectuel, qu'une grande partie du Think Tank Terra Nova a cru à un moment qu'on pouvait remplacer la communauté, enfin les ouvriers qui étaient le terreau de la gauche par les immigrés. Donc ils ont joué sur cette ambiguïté pendant très longtemps.
Mais c'est pas une ambiguïté, c'est vraiment leur programme politique. Ils ont dit, abandonnons le peuple à Marine Le Pen, il est déjà chez elle. Donc, et allons-y avec les minorités qui vont devenir les majorités et le centre. C'est un choix politique, on ne peut pas non plus dire l'antisémitisme c'est pas bien, hein. Oui, on peut dire ça, mais on peut aussi, quand on fait un travail philosophique, dire généalogiquement d'où ça vient. Mm-hmm. Pourquoi y a-t-il de l'antisémitisme? Et toute la complaisance de la gauche pour une espèce d'islam radical depuis Michel Foucault, Pascal Bruckner a fait un très beau papier dans le Figaro.
Mais qui soutenait les passes d'armes iraniens.
Voilà, et à partir de ça jusqu'à Edwy Plenel, qui nous fait savoir que les musulmans aujourd'hui, ce sont les juifs dans les années 30. Mais où sont les étoiles? Où sont les trains? Où sont les chambres à gaz qui aujourd'hui permettent de déporter les musulmans? Donc effectivement, il y a un islamisme, un islamo-gauchisme qui est terrible, soutenu par la gauche qui a besoin d'être réélue, élue et élue encore, qui a besoin de ce genre de voix.
Enfin, qui s'effondre. Regardez là ce qui se passe avec Mélenchon. Les élections européennes.
Ah oui.
Il y a quand même eu quelque chose qui est en train d'apparaître.
Mais ce qui s'y apparaît, c'est effectivement le retour du refoulé maastrichtien, c'est-à-dire les gilets jaunes, c'est ça. Que, effectivement, ce soit noyauté par l'islamo-gauchisme aujourd'hui, c'est-à-dire une gauche et un certain type d'islam, je ne dis pas tout l'islam, entendons-nous bien, et tous les musulmans non plus. Je dis simplement la frange radicale. Et ça, c'est une évidence qu'il faut dire et qu'aucun homme politique ne dit.
Le livre est consacré à cette pensée romaine dont vous avez tout le temps considéré que la pensée officielle, ou disons la pensée classique, la considérait comme la sous-préfecture des Grecs, en gros, pour simplifier. Y compris, d'ailleurs, dans les dieux, chez les penseurs. Tout à l'heure, on parlait évidemment d'Aristote, Platon et Socrate, et on parle assez rarement de Cicéron, Sénèque, Épithèque, Plutarque, Lucien et quelques autres. En quoi, justement, cette pensée romaine a une saveur particulière dans le contexte que nous vivons aujourd'hui?
Il y a beaucoup
de choses. Ce sera ma dernière question.
Dans la philosophie d'aujourd'hui, je dirais, il y a une philosophie pour philosophes, elle est grecque, elle est compliquée, elle est absconce, il y a des mots compliqués, il faut avoir fait des études de philosophie pour comprendre les philosophes, pour lire le Parménide de Platon, pour lire la métaphysique d'Aristote ou les Énéades de Plotin. Ça, c'est vraiment fait pour des gens qui font des études de philo. En revanche, si vous prenez les lettres à Lucilius de Sénèque, ça peut être lu par un chauffeur de taxi, ça peut être lu
par... Vie heureuse.
Oui, par exemple, ou les textes de Cicéron sur l'amitié, sur la vieillesse ou sur la mort, ou tous les textes romains, je dirais, tout le monde peut lire ces textes-là. Et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a de la sagesse pratique. Il y a chez Aristote une réflexion sur l'être. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? On se dit, c'est très bien, ça permet de faire des agrégés, des docteurs, des professeurs, et tout ça est sympathique. Mais quand on a Cicéron qui nous dit comment vieillir, qu'est-ce qu'un ami, quel rapport doit-on avoir à la possession, à l'argent, aux choses, aux
biens... Là, on est plus proche de Montaigne, là.
C'est Montaigne, vous avez raison. C'est complètement Montaigne qui n'aimait pas beaucoup les Grecs, qui aimait Socrate, parce que Socrate était un éveilleur de conscience, mais qui n'aimait pas beaucoup Platon ni Aristote. Et je crois que dans sagesse, il y a des recettes de sagesse pratique pour tout le monde. Et c'était mon désir, je voulais pas faire un livre pour les philosophes, les professeurs de philosophie, mais pour des gens qui diraient, mais comment puis-je vivre, vieillir, souffrir, mourir, aimer, etc.
Dernière question est importante, qui rappelle la philosophie, le président de la République dont vous avez parlé. Je rappelle que dans le livre, justement, il est beaucoup question de Cicéron, de Sénèque, de cette vie incroyable qui est celle de Sénèque, précepteur de Néron, obligé, effectivement, à la fin de sa vie, lui qui a été très riche et qui n'a pas vraiment appliqué, d'ailleurs, les préceptes qu'il préconisait dans ses livres, de se suicider. Paul Ricoeur, il s'en est beaucoup revendiqué, enfin, il a beaucoup revendiqué cette paternité, président de la République, lors de la campagne. Ce sera ma dernière question. Finalement, on en trouve toujours une dernière, mais c'est vrai qu'il est très peu connu des gens. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une importance dans l'histoire de la philosophie, ou est-ce que c'est un marginal total?
Non, c'est pas marginal, c'est un penseur officiel, je veux dire, c'est un penseur de l'institution. C'est un grec en ce sens. C'est vraiment un philosophe pour philosophe. Moi, j'ai pas beaucoup aimé la pensée de Paul Ricoeur, non pas qu'elle ne soit pas intéressante.
Mais c'est quoi cette pensée ?
Mais il y a pas proprement de pensée. Il y a une pensée de l'herméneutique, c'est-à-dire une pensée de l'analyse textuelle. Il y a une pensée de la réflexion à partir de l'archive et du texte. Tout ça est formidable, mais après ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Sur le temps, sur le récit, sur l'écriture de l'histoire. Donc c'est vraiment un philosophe pour philosophe. Quant aux références de Macron, il se réclame aussi d'Habermas, de l'agir communicationnel d'Habermas.
Oui, il a expliqué que les philosophes français n'avaient aucun intérêt et que sur l'Habermas, ça avait de l'intérêt. Donc ils vous ont embarqué tous...
Il y a encore quelques temps, en Allemagne, il disait qu'il n'aimait pas beaucoup la langue française. Un président ne devrait pas dire ça, si je puis me permettre.
Sagesse, c'est le livre de Michel Onfray que vous lirez avec beaucoup de plaisir, publié chez Albin Michel et Flammarion, bien que l'on puisse, évidemment, dans les rapports qui existent entre les Grecs et les Romains, apporter une certaine forme de contradiction, puisque vous-même dites qu'une grande partie, ou écrivez plutôt, car il s'agit d'écriture, qu'une grande partie de ces auteurs romains écrivaient, 50% d'entre eux, en tout cas en grec. Merci Michel d'être venu ce matin. Vous allez revenir, car ça fait longtemps que nous ne sommes point vus. Il est 8h59.